Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Il ne faut pas se voiler la face. Le sort fait à l'Africain est la preuve la plus parfaite qu'on puisse produire en faveur de la colonisation des esprits. Fidèles au schéma raciste du XIXe siècle, les Occidentaux, surtout les belles âmes, considèrent encore les Africains d'après les schémas établis par le comte de Gobineau et Ernest Renan, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle humaine. Nous sommes au XXIe siècle et j'ai l'impression que certaines personnes ne réalisent pas encore que les Africains peuvent devenir écrivains, ou bien des voyageurs, ou encore des ingénieurs, ou tout simplement des gens à peine scolarisés, mais qui ne considèrent pas leur état comme une tare. L'heure bleue ce soir est consacrée à l'Afrique, aux Afriques. Nous allons célébrer en direct en compagnie du cinéaste Abderrahmane Sissako, de l'écrivain et poète Nimrod, dont je viens de lire un extrait d'un de ses livres qui s'intitule « La nouvelle chose française », et de notre grand poète radiophonique Soro Solo, « Le printemps des poètes », dont Abderrahmane, vous êtes le président, Nimrod et Soro Solo, vous êtes les parrains. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et nous allons commencer avec votre choix musical, Abderrahmane. Il paraît que c'est la journée de la femme. Pour nous, c'est tous les jours la journée de la femme. Il se trouve que vous êtes trois hommes, mais nous avons choisi et vous avez choisi quatre femmes. Angélique Kidjo, Liz Wright, Lisa Simone et Jan Reeves pour revisiter Nina Simone.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Ansara. My name is Ansara. Ansara. My skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white, and he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Saffronia. My name is Saffronia. Saffronia is my name. skin is tan. My hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. What do they call me? My name is Sweet Thing.
Quand vous partiez pour l'Afrique, vous ne saviez pas que vous étiez déjà en route. Parce que vous ne saviez pas que vous étiez l'Afrique. Vous ne saviez pas que le continent noir que vous deviez atteindre, c'était vous. Ce sont les paroles de Gwendalyn Brooks dans ce poème intitulé « Vous ne saviez pas que vous étiez l'Afrique » publié en 1976, In Black World, que vous publiez, Nimrod, dans 120 nuances d'Afrique, une anthologie établie par vous et par Bruno Doucet et Christian Poslaniec, qui vient juste de paraître et qui nous fait découvrir à quel point le continent africain regorge de poètes pour dire le passé, le présent, mais aussi le futur. Pourquoi les connaît-on si mal?
La réponse, vous l'aviez déjà donnée tout à l'heure, en me citant, ce qui me troublait beaucoup d'ailleurs. Pourquoi on le connaît si mal? Déjà, le continent est si vaste. Elle dépend, comme tout, de son histoire, de son économie. Tout cela dépend de l'extérieur, des puissances qui l'ont colonisé. Et donc, dire pourquoi on les connaît si mal, c'est pas vraiment la bonne question. Si d'ailleurs on voulait faire une anthologie qui puisse parler de l'Afrique, il faudrait 1000 pages. Il faudrait 1000 pages. Donc, voilà, là on a fait pour un livre qui ne dépasse pas 300 pages, on a essayé de mettre quelques auteurs qui donnent goût pour cette Afrique-là. Et cette Afrique-là, ce qu'on a aussi voulu dire par cette anthologie, c'est que l'Afrique, c'est la première mondialisation. C'est comme d'ailleurs la génétique nous le prouve aujourd'hui, l'Homo sapiens, c'est le premier homme moderne. Et donc, voilà. Ces évidences-là qui ne sont pas vues, si cette anthologie-là, comme vous le relevez si bien, donne cette richesse-là, parce qu'elle est américaine. Et comment elle devient américaine, étant de souche africaine? C'est par l'esclavage, c'est par la traite négrière. Et voilà ce qu'elle écrit, c'est tout simplement sublime. Et Segers l'avait publié il y a quelques années, mais c'est tombé dans l'oubli et on le fait redécouvrir.
Alors Nimrod, vous êtes poète, écrivain, essayiste, vous êtes aussi un très beau jeune homme avec un très beau chapeau gris, des lunettes de soleil dans ce studio allumé par les sunlight. Et à côté de vous, il y a un cinéaste que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, et ce depuis très longtemps. Et qu'est-il en train de faire en direct dans ce studio? Il a pris son téléphone portable, il est en train de vous filmer. Pourquoi Abderrahmane Sissako, filmez-vous Nimrod? Parce qu'il est beau?
Non, je pense que peut-être parce que je voulais que derrière les mots, qu'il y ait une image aussi, peut-être. Parce que c'est pas seulement les mots qui sont importants, hein, mais c'est la manière, c'est la forme. Hein. La forme, parfois, elle est fondamentale. Et donc, vous entendre parler, et aussi, bien avant, on a écouté la citation qui évoquait déjà le continent. Et au-delà du continent, je pense que ce qui est extraordinaire dans ce que vous faites et dites, c'est l'humanité évoquée. Et ça, voilà, je me sens témoin d'un petit moment et je me suis dit, tiens, il faut que je filme ce petit instant.
Alors, nous allons écouter la voix d'un homme qu'on admire beaucoup, que les enfants continuent à lire et à étudier. Il a été poète, écrivain, homme politique, premier président de la République du Sénégal, auteur de très grands textes, de poésie, évidemment, mais aussi de littérature, comme Éthiopique, Chant d'ombre. Il a repris le concept de négritude, comme vous le savez, à la suite d'Aimé Césaire. Nous allons écouter la voix de Léopold Sédar Senghor, qui va parler de la différence entre la culture française et la culture négro-africaine. C'est un extrait de son fameux discours de clôture de la conférence du Cercle France-Afrique. C'était le 20 novembre 1958. On écoute la voix de Senghor.
On nous a dit, il y a plusieurs civilisations africaines. Bien sûr, au début, lorsque la Gaule a commencé de se constituer, à l'époque des Romains, un Flamand était très éloigné d'un Basque et d'un Marseillais. Et un Dahomey est beaucoup moins éloigné du Sénégal. Vous savez qu'il y a de très grandes aires culturelles en Afrique. Il y a les Bantous, il y a ce qu'on appelle les Soudanais en AOF. C'est la même culture avec deux aspects. Vous avez l'aspect soudanais avec le lièvre qui est le héros de la fable. Vous avez l'aspect de la forêt avec l'araignée. Mais ce sont les deux aspects d'une seule culture. Il y a des langues africaines qui sont riches avec leurs contes, leur poésie, leur théâtre. Il y a une peinture africaine qui est extrêmement riche et qui fait l'admiration des grands peintres français actuels. Il y a une danse africaine que vous savez, il y a une véritable culture. Nous sommes nécessaires aux Français. Parce que le français est une sorte d'usine qui tourne. Il faut de la matière première. Le français s'est retrempé aux sources gréco-latines pendant la Renaissance, puis aux sources espagnoles, puis aux sources anglo-saxonnes et allemandes, et maintenant c'est aux sources exotiques. Et nous lui sommes nécessaires comme matière première de sa culture. Le français, le cartésien a besoin d'images, a besoin de rythme, a besoin de contact.
Alors nous venons d'entendre cet extrait de ce discours de Senghor, c'était en 58. Est-ce que les propos qu'il vient de tenir sont compréhensibles aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous pensez que les Français ont besoin de l'Afrique? Et est-ce qu'ils le manifestent? Abderrahmane Sissako.
Non, je pense que on a tous besoin les uns des autres, hein, mais plus que jamais, je crois que la France le sait, hein, elle a eu besoin de l'Afrique, elle est riche parce que l'Afrique est riche. Et pour répondre à votre première question, vous disiez, mais pourquoi cette anthologie n'est pas connue? Mais tout simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas. On peut s'intéresser au pétrole, alors, voilà, mais on ne s'intéresse pas. C'est tout simple, vous savez, c'est tellement évident et clair et simple que nous, Non, c'est on ne sait pas ça parce qu'on ne s'y intéresse pas. Il y a une forme de condescendance vis-à-vis de ce continent. Il y a un sentiment de supériorité. Et c'est comme ça qu'on l'a assujetti. Et c'est terrible parce que lorsque vous vous affaiblissez par vos méthodes, par une politique, un quart de l'humanité, c'est que ça retombe sur vous, c'est clair. Le monde est un tout. Donc quand il y a une partie qui est malade, ben ça finit par vous atteindre et vous allez boiter à votre tour. Et on disait juste avant l'émission que notre force finalement, c'est que on nous a habitués à la crise. Nous vivons, nous sommes dans la crise de tout temps. On est né dans la crise, on grandit dans la crise. Donc rien ne nous effraie plus en fait. Et c'est ça la force de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est une force, c'est de contre personne. Hein. C'est une réalité. Et donc, je crois que c'est le berceau de l'humanité, non pas pour être plus fort ou meilleur que les autres, mais c'est une évidence. Et donc, et c'est pourquoi des grands artistes de ce continent qu'est l'Europe ont su ça. Et s'en sont inspirés, et heureusement d'ailleurs, pour le porter à tous en même temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste...
Et cette forme de condescendance, Abderrahman Cissako, vous l'avez ressentie personnellement dans votre démarche artistique de cinéaste? Il a fallu vaincre cette condescendance pour pouvoir imposer votre vision du monde?
Non, je vais... Pas jusque-là, parce que là, si je dis ça, je ramène les choses un peu à moi. Je pense qu'être cinéaste, c'est déjà choisir une vie difficile, une manière difficile de s'exprimer. On peut être français, cinéaste, et avoir énormément de difficultés à s'exprimer. Donc, je crois que j'ai eu, dans ce sens, peut-être un peu plus de chance, je dirais. Mais
vous avez eu la chance aussi de passer par la case Moscou, puisque c'est à l'école de Moscou que vous avez appris le cinéma et pas en France.
Oui, et là, à Moscou, je peux dire que j'ai eu cette condescendance, absolument. Moi, j'ai souffert du fait que je suis arrivé jeune, j'avais 19 ans, et je suis rentré dans une école de cinéma où, pour être sélectionné, il fallait savoir les choses. Mais la connaissance, elle est relative. Et savoir, à l'époque, dans ces écoles-là, c'était connaître qui était Bach, qui était Picasso, qui était Gauguin, etc. Mais quand on est jeune Africain, qu'on arrive, on arrive avec autre chose. Mais cette autre chose, ça n'intéresse personne. C'est ça le problème. Donc moi, je souffrais du fait que non seulement j'étais pris vraiment pour quelqu'un qui n'a rien à partager, qui n'a rien à donner. Et on voulait aussi me montrer que je ne sais rien, que je ne connais même pas, que j'avais jamais entendu parler de Tchaïkovski ou d'autres. Et c'est vrai. Mais en même temps, eux n'avaient pas entendu parler, peut-être chanter celle qui me berçait dans mon enfance. C'était un conte africain où ma mère chantait, ou juste mon voisin, ou etc. Je pense que l'art, c'est ça, finalement, c'est que c'est des multitudes de choses, et que ceux qui n'ont rien inventé, disait d'ailleurs Césaire. Oui. Voilà. Mais c'était une façon de dire que il faut faire attention. Il faut pas que, parce qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent la communication, tous ces moyens, oppriment les autres en leur prouvant qu'ils n'ont rien à faire. Voilà.
Et vous, Nimrod, vous avez ressenti aussi cette condescendance parce que votre parcours est un peu particulier. Vous avez écrit de nombreux livres, vous êtes reconnu dans les cercles littéraires, à la fois comme écrivain, essayiste, assez acéré, hein, sur les problèmes de la colonisation et de la post-colonisation. Vous êtes aussi poète et vous avez choisi d'être en France et de quitter l'Afrique depuis quelques années. Pourquoi ?
D'abord parce que quand on est tchadien, quand même, le Tchad, ce n'est qu'un pays de soldats. Et donc, si on veut écrire, c'est quand même tout à fait... c'est incongru quand même d'être au Tchad. Et j'ai vu des gens... très très bien doté, être brisé du jour au lendemain parce que on peut pas tenir. Et donc j'avais cette chose folle d'écrire alors que je n'avais aucun modèle social et puis je n'avais pas aussi l'intention de perdre mon temps dans des choses qui ne me regardaient pas. Et donc, très tôt, sur ce point, comme disait Abderrahman tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire avec une bonne bourse. J'ai fait mes études supérieures. Mais je pouvais pas m'épanouir vraiment. Senghor, tout à l'heure, dont vous nous avez fait la grâce de nous donner à entendre sa voix, et je co-signe ce qu'il vient de dire, et je crois que c'est tout à fait valable encore aujourd'hui. Et celui qui me trouve la bourse pour venir en France pour faire ma thèse de philosophie. Et donc, ce qui me permet de vivre en France depuis 25 ans. Mais je ne pouvais m'épanouir qu'ici. Tous mes éditeurs sont ici. Quand j'ai fait mon premier livre, je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Mes éditeurs étaient déjà français. Donc je suis resté. Et en effet, notre situation, comme je l'ai analysé dans ce livre que vous avez cité, La Nouvelle Chose Française, nous sommes à côté, et Senghor utilise cette formule, il en fera plusieurs variantes d'ailleurs, que nous sommes la matière première de la France. Et il dira, pour la guerre, les tirailleurs sénégalais sont la matière première humaine. Pour servir de chair à canon. Là, il le dit très positivement et j'en suis heureux. Je connaissais pas ce discours, donc c'était très très bien. Mais Senghor a toujours milité pour la communauté africaine et française. S'il y a un homme généreux, c'est celui-là. Et d'ailleurs, nous vivons un moment extraordinaire, un moment, je veux dire, du point de vue pour nous autres artistes, un moment extraordinaire quant au plan social et politique, ça c'est une autre question. Nous voyons un homme politique qui est dans des moments terribles, et qui résume d'une certaine manière le climat de ce pays, c'est-à-dire dans la dénégation totale. Il est pris dans des situations horribles qui, dans d'autres démocraties européennes, demanderaient qu'on démissionne sur le champ. Et il dit non, c'est le complot, c'est dans la dénégation totale. La France tire une bonne richesse, une bonne partie de sa richesse d'Afrique, c'est-à-dire que les intérêts mêlés de la France et de l'Afrique, on n'a pas besoin de faire une dissertation là-dessus.
Oui, mais sauf que le regard sur l'Afrique change, puisque on se souvient de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui avait demandé au ministère de l'Éducation nationale d'inscrire dans les manuels scolaires une certaine image et une certaine idée de la colonisation. On a vu très récemment, au cours d'un voyage en Algérie, d'un homme qui se présente au présidentiel là, qui a fait des déclarations en disant exactement le contraire, en disant que la colonisation était un crime. Que pensez-vous de ce changement d'optique et de ces perceptions plus que différentes, Soro Solo?
Enfin, je pense que les hommes politiques se suivent et se contredisent. Dans la mesure où ils veulent se faire entendre, peut-être c'est nécessaire de prendre le contre-pied de celui qui les a précédés pour exister par eux-mêmes.
Oui. Non, mais sur la problématique de la colonisation, il y a un vrai débat.
Quand on entend un chef d'État ou un homme politique dire les bienfaits de la colonisation, moi, l'Africain, je lui réponds, ben oui, s'il y a des bienfaits de la colonisation, c'est qu'il y a aussi des bienfaits du nazisme. Et le débat est clos. Parce qu'on n'a pas envie même de rentrer là-dedans. Ouais. Et pour revenir, rebondir sur la condescendance, elle existe aujourd'hui, mais malheureusement, ça apparaît comme un sujet tellement récurrent que même dans une causerie de chaumière, on vous reproche d'évoquer cette condescendance. Moi, ça fait 10 ans que je suis à France Inter. Mais il y a encore des gens...
Alors, faut expliquer aussi, Soro Solo, ouais, parce que vous parlez rarement de vous, mais c'est quand même très intéressant de raconter dans quelles conditions, parce que vous êtes dans la même situation que Nimrod.
Que Nimrod, oui.
Il n'a pas choisi de quitter son propre pays. Je pense que Nimrod, vous auriez bien aimé rester dans votre pays pour continuer à écrire.
Ou la Côte d'Ivoire, puisque ce fut ma seconde patrie.
Voilà, en fait. Donc c'était un exil forcé pour des raisons tout simplement de survie. Et vous, pourquoi vous êtes parti de votre propre pays sans solo?
Je vais faire court. Je suis tombé amoureux de la France quand je suis venu étudier au début des années 80 en France, mais j'avais du travail en Côte d'Ivoire à la Radio Nationale. Je suis donc retourné travailler dans mon pays. Sauf que ce qui me semblait logique pour un producteur radio, c'est que la radio soit à l'écoute des populations, de leurs préoccupations, de leurs questionnements. de leur frustration. Et donc, moi, j'ai créé, à un moment donné, un magazine interactif sur l'antenne qui s'appelait Le Grognon et qui donnait la parole aux auditeurs qui pouvaient rendre compte et rendre témoignage de leur frustration, des tentatives d'escroquerie, des tentatives de corruption dont ils ont été victimes dans le service public. Et donc, quand l'auditeur est témoignant, moi, je lui donnais des clés dans un état de droit, puisqu'on est supposé être un état de droit, comment se positionner en partie civile et porter une plainte contre une administration et obtenir gain de cause. Le monsieur a quand même duré 10 ans, sauf que dans ces conditions-là, on va dénoncer des policiers, des fonctionnaires, des médecins, des gendarmes. Tu ne te fais pas forcément des amis au sommet de l'État, dans l'armée, dans les corps armés. Ainsi donc, quand les troubles sont arrivés en 2002 en Côte d'Ivoire, je pense que j'étais placé dans le collimateur de tous les hommes, des militaires, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des hauts fonctionnaires et même du régime. Et donc, j'ai échappé à 2 assassinats en octobre 2002. Et donc, je suis parti pour demander l'exil politique en France. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France pour refaire le seul métier que j'ai appris à faire dans ma vie, la radio. Donc, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, après 10 ans à France Inter, il y a encore des gens quand ils me voient, salut, mais finalement, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, bon, le plus naturellement, je réponds, je suis journaliste. Ah bon? Mais l'air un peu soupçonneux. Mais journaliste où? À France Inter? Non. C'est pas possible. Vous voyez, bon, c'est pas pour la ramener à notre petit nombril, mais malheureusement, on l'entend encore aujourd'hui par rapport à cette Afrique que tu as évoquée au début, qui est méconnue, totalement méconnue, alors que nous, en tout cas, notre génération, Abderrahman, moi, on a une bonne connaissance de l'Afrique. On le dit avec prétention. On a appris les lettres françaises. On a appris les auteurs français. Nous, le lac de la Martine, moi, je l'ai étudié à l'école, dans Mamadou et Binetta, La Fontaine. Nous, on a appris. Et que des gens comme moi gardent encore un souvenir. 50 ans après, je me rappellerai toujours, connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau, encadré dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Vous voyez, nous, on a cette parfaite connaissance de la France. En troisième, mon programme de géographie, 50% la France, 50% la Côte d'Ivoire. Donc, nous, quand on est là-bas sur le continent, on pense que la réciproque est vérifiée. Sauf qu'on arrive ici, et tu tombes sur des gens qui te disent, ah, tu viens d'Afrique. Ah, donc tu parles africain. Tiens, tu tombes des nues. Tu dis, oui, je parle africain comme tu parles européen. Ah, mais non, c'est pas la même chose. L'Europe, c'est un continent. Tu dis, alors, l'Afrique, tu crois que c'est quoi? C'est 54 États, si on ne reconnaît pas.
Et combien de langues?
Ah, c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, le mien, n'a que 60 langues. Et la RDC, 260.
Et l'Éthiopie, 300.
L'Éthiopie, 300.
C'est incroyable.
Et, alors, tu vois,
et c'est de ça dont on...
Une méconnaissance
totale. Et le Tchad, plus d'un millier.
Ah. Non, moi, je pense que
c'est... Abderrahman Sissako.
Oui, je pense que ce qui serait dommage et grave, c'est que... C'est attendre que ce continent soit apprécié ici en France. Peu importe, finalement. Je crois que c'est ça.
Parce
que
mais si je crois que les Français le savent. Les Français le savent, c'est simplement l'élite qui...
Et les médias. Et les médias. Quand les médias évoquent l'Afrique, c'est juste pour parler de la guerre, des dictateurs, de la famine, de la pauvreté. Alors qu'on peut parler d'autre chose.
Non, on a évoqué Senghor tout à l'heure, mais Senghor n'a pas été enseigné ici. Pourtant, c'est un des plus grands poètes.
C'est-à-dire que les...
Donc, les gens ne savent pas.
Les grands poètes et les grands écrivains africains sont enseignés par des poètes et des écrivains qui sont appelés dans les universités américaines et que l'enseignement de l'Afrique... Hélas, ne se fait pas encore dans les universités, mais que nos grands professeurs de civilisation africaine sont obligés d'aller enseigner la civilisation africaine aux États-Unis.
Parce qu'ils ont été rejetés ici. La plupart d'entre eux vous racontent leur histoire. Ils ont été jetés. Ils sont allés aux Amériques.
Soro Solo, vous faites de la radio. Oui. Vous savez ce que c'est le direct.
Exact.
Il est 20h34. Vous écoutez France Inter. Vous écoutez l'heure bleue. Vous écoutez le choix musical de Soro Solo. C'est...
Army Arrangement de Fela Anikulapo Kuti, l'artiste qui porte la mort dans sa gibecière.
whether you like or you don't like. After you hear this situ talk, whether you like or you don't like. After you hear this situ talk, if you like it good, if you no like you hang, if you like it good, if you no like you hang, if you hang you go die, you go die for nothing. We go carry your body go police station, you die wrongfully. Gege, 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 gege. If you like it good, if you no like you hang, if you like it good, if you no like you hang, if you hang you go die for nothing. You go carry your body go police station, you die wrongfully. Gege, 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 gege. Man they suffer him fi talk na condition too. Man they suffer him no fit talk na condition. Man they suffer him fi talk na condition too. Suffer they Africa paparapa. I suffer they paparapa. Conditions till they make you shake and you still they not talk the way you feel. Make you open your two ears very well to the hear the truth talk where yeah they talk. Listen make you they grieve for me every day and night today hear me talk. One day you self go agree with me to the act the way as you they feel. Remember if you don't act your own one day of course we must die. Nigeria get the money. Money for overseas. Nigeria getting money. Foreign money for overseas.
Fela à Nicolas Pocucci. Ah ben. C'est, ça fait plaisir lors que tu m'as demandé de proposer des chansons. Forcément, je ne pouvais que, entre mille autres, présenter quelqu'un comme Fela Nicolas Pocucci, parce que les problématiques qu'il a abordées avec son art musical, ça rejoint celui des poètes, en tout cas l'extrait de Nimrod que tu nous as lu, et parce qu'il est un sculpteur de conscience. Sur le continent, nos hommes politiques, bien sûr, nous avons beaucoup à reprocher à l'Occident, mais depuis 1960, la quasi-totalité des pays africains sont indépendants. Nous avons notre sort entre nos mains. Pourquoi nous ne décidons pas d'enseigner nos poètes à nos enfants, d'enseigner nos scientifiques à nos enfants, mais on continue de perdurer ce que l'administration coloniale nous a laissé. Ah, ça, c'est pas la faute du colon quand même. Nous pouvons le décider par nous-mêmes. Et Fela, il nous ramène à ces questionnements. Et quand il parle de army arrangement, c'est de voir tous ces coups d'État qui sont provoqués par des militaires pour prendre le pouvoir. Et nous savons, en tout cas pour les pays francophones, que la plupart de ces coups d'État militaires aussi, la ficelle était tirée ici. Tout le monde connaît la France-Afrique et Foucault, l'action de Foucault, de mettre un président qui ne fait pas l'affaire de la France, dégommer un militaire prendre le pouvoir. Et il y a Fela, avec ce texte, Army Arrangement, nous éveille nos consciences et nous, Africains, nous amène à regarder de plus près notre histoire, d'en prendre conscience et de voir comment chacun d'entre nous, dans le métier qu'il fait, qu'il soit balayeur, vendeur au marché, poète ou homme de radio comme moi, quel acte il pose pour donner la parole aux populations, pour qu'on mette le doigt à l'endroit où ça fait mal et d'interpeller les politiques.
En tout cas, ce dont vous témoignez, chacun à votre façon, Abderrahmane Sissako par votre cinéma, et on reviendra à Bamako et à Timbuktu, évidemment, Et vous, Soro Solo, par vos émissions, votre engagement, votre enthousiasme, et vous, Nimrod, par vos poèmes, vos essais et aussi vos romans, c'est la méconnaissance dans laquelle on continue à parler de l'Afrique. Et on continue à parler de l'Afrique comme si elle était une, comme si elle n'était pas des milliers, comme si effectivement il n'y avait pas, je crois, plus de 3000 langues parlées en Afrique. Et comme si nous, Européens, Occidentaux, nous attendions de l'Afrique la continuation de stéréotypes et de clichés. Voici ce que vous écrivez, Nimrod. Que dire de l'écrivain africain? Tout se passe comme s'il devait produire une littérature exotique destinée aux Européens et à lui-même, ce qui revient à vouer à la nostalgie une Afrique qui a disparu depuis longtemps, et ce, par voie et fait d'une production qui se veut authentiquement africaine, avec des filles excisées, des mariages forcés, le tout dans un cadre de préférence villageois. C'est là que les Africains seraient vraiment authentiques. Or, la majeure partie des Africains vit dans les villes. La donne a changé, mais nous continuons à poursuivre des vieilles lunes. Aujourd'hui, c'est du sein des villes qu'on envoie hélas les filles pour être excisées dans les villages, et même de Paris ou de Londres. Nous cotons à présent dans nos rangs 3 générations d'intellectuels et de lettrés. Ceux-ci lisent les mêmes livres que leurs confrères occidentaux, la même littérature, la même philosophie, en dépit de la couleur de leur peau, celle de leur race. Ils sont modernes, si l'on en croit Baudelaire et Rimbaud.
Yes.
Ils sont modernes. Bravo, Nimrod. Mais le fait de le dire, le fait de l'écrire, ne produit pas forcément un éveil de conscience.
Mais d'abord parce que, mais ça aussi, c'est ça la beauté de la culture. C'est que la réponse, un autre écrivain l'a déjà donnée depuis longtemps. C'est Balzac. C'est que nous autres, que nous soyons peintres, musiciens, nous formons une république de l'être. Et cette république de l'être-là, si nous ne sommes pas épaulés par une bourgeoisie lettrée et une bourgeoisie qui se préoccupe du développement, ce sera longtemps comme ça. Jusque-là, c'est une bourgeoisie qui cherche simplement à prendre de l'argent. Donc, c'est ce que je dis aussi dans ce livre, nous en avons encore pour un siècle ou deux.
Oui, vous êtes optimiste.
Oui, oui. Si, parce que ça, l'Afrique, ces 15 dernières années, personne ne pouvait prévoir ça. Ça change à une vitesse, c'est un continent qui change à une vitesse très, très folle. Moi, je croyais que ça prendrait un millénaire. Non, ça change à une vitesse qui défie n'importe quel prophète. Ça défie n'importe quel prophète. Donc, les cadres que nous avons en exil, il y a des légions et des légions, et l'argent africain, bon Dieu, c'est l'Afrique qui finance tout. Donc, c'est ce que je dis, que dans cette noirceur, il y a un espoir insensé en même temps. Donc, pour citer un des philosophes que nous connaissons bien, c'est Catherine Clément, disait, mes amis indiens, pendant longtemps, l'opéra ne les intéressait pas. Et depuis quelque temps, ils vont à l'opéra. C'est-à-dire que cette bourgeoisie-là, quand la bourgeoisie commence à aller à l'opéra, à s'intéresser à la littérature, ça commence à changer. Jusque-là, si je survis, c'est que mon lectorat est français. Quand je commencerai à avoir un lectorat proprement africain et tchadien, tout se renversera. C'est pour ça que quand on connaît l'histoire, mais notre Descartes, il a écrit son œuvre à l'étranger. Donc tout est comme ça. Il y a juste 3 siècles. Donc Et pourquoi, quand il faut lire l'histoire africaine, on change de paradigme? C'est le même paradigme. Voilà.
Je vous propose d'écouter Ousmane Sembène, qui a été très connu, qui aujourd'hui, hélas, est trop méconnu. C'était un écrivain, un réalisateur de films très important. Le dernier avait été d'ailleurs un très grand succès, hein, Black Mouladé. Girl, le mandat, voilà, Mouladé. On va l'écouter, il va parler de la résistance africaine à la colonisation à travers le cinéma. C'était au moment où il sortait son film Samori. Nous allons l'écouter au micro de Serge Dané. C'était le 25 février 1997, Ousmane Sembène.
Quel type de film faut-il faire? Je ne sais pas. Mais un film, quand il est bien fait, quelle que soit sa langue originale, passe. Ce n'est pas parce qu'un film parle français que le film sera vu par les Français, aimé par les Français. C'est faux. Il y a des films français que les Français n'aiment pas.
Bien sûr.
Il y a des films anglais aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit le parler qui fait la valeur d'un film. C'est la thématique, l'écriture. C'est là où l'Afrique, à mon avis, où les cinéastes africains ont à apprendre de toutes les autres cultures et d'enrichir leur propre culture. Je donne mon exemple. Pendant mes recherches, 20 années de recherche sur Samori, je me suis mis à apprendre la peinture flamande à cause de la profondeur des champs. Je ne pense pas que lorsqu'on on connaît le climat de la Hollande et ainsi de suite à l'époque, les lumières, on regarde un bon tableau de l'époque, des paysans. Il ne manque aucun détail, mais la profondeur des champs. Il n'y a pas de peinture africaine. Il y a des statuettes. Prenez une statuette africaine. Vous observerez que les détails sont grossis par rapport à l'essentiel. Vous verrez des scarifications énormes, des noms énormes, des pieds énormes. Un détail qui exagère, qui absorbe. Pourquoi nos grands-pères le faisaient-ils? Je ne sais pas. Je cherche. Donc, je pense que dans ce domaine, l'Afrique a à apprendre des autres d'abord et d'apprendre sa culture. La plupart des cinéastes africains sont issus des grandes écoles européennes, à commencer par moi. Ce qu'on nous a enseigné, c'est les valeurs grecques ou romaines, ou tout ce que vous voulez. C'est normal. Il n'y a pas à se plaindre. C'est à nous maintenant de faire quelque chose de nouveau.
Abderrahmane Sissako, vous sentez-vous le continuateur de Ousmane Sembène?
Non, je n'oserais pas dire ça. Mais Sembène, c'est... c'est le père de notre cinéma, c'est pas seulement du cinéma d'ailleurs, il était écrivain d'abord,
oui,
donc c'était un grand homme. Hein,
absolument.
Et, absolument, et donc en plus, je me rappelle quand je préparais Bamako, et si j'ai un regret par rapport à Bamako, j'étais allé voir Sembène à Dakar, parce que donc je l'ai téléphoné et je lui ai dit que j'ai besoin de lui et je voulais lui proposer quelque chose et que je peux pas le dire au téléphone parce que Sembène c'est vraiment un monument, donc il faut se déplacer et je voulais qu'il soit le procureur dans Bamako.
Ah,
voilà,
oui, d'accord.
Absolument.
Merveilleux que je vois.
Ouais.
Alors, Abderrahmane Sissako, il faut rappeler que donc Bamako, c'est votre avant-dernier film, celui qui est venu juste avant Timbuktu. Que votre idée de départ, c'était de filmer dans la cour de votre maison un procès contre la mondialisation et que vous aviez convoqué dans la cour de cette maison familiale, eh bien, des procureurs, des juges, des témoins pour parler finalement de quoi? Eh ben, de l'état de dette de l'Afrique, expliquer les raisons pour lesquelles les pays africains sont en dette et essayer de disséquer aussi la manière dont l'Europe, principalement, avait perclus de rhumatisme de dette depuis des décennies et encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette Afrique, hélas, encore exsangue. Donc, quand on revoit ce film, ce qui m'est arrivé hier soir, on se dit que vous étiez un prophète, Abderrahmane Sissako, parce que ce procès de la mondialisation que vous faisiez il y a quelques années, non seulement il s'est vérifié, mais il s'est amplifié.
Non, je pense que moi, j'ai tout simplement, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, j'ai vécu l'ajustement structurel. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par ajustement structurel?
L'ajustement structurel, c'est très simple. Hein. La Banque mondiale, le FMI, ont imposé aux pays en développement, pas seulement l'Afrique, mais l'Amérique du Sud, une politique en disant, voilà, pour que vous vous développez, je schématise, hein, et je raccourcis, l'État ne doit pas financer l'éducation, la santé et la culture. Il ne faut pas. Et donc, on s'est retrouvé avec des classes de 120 personnes. Voilà. Comment voulez-vous qu'on apprenne quand on est 120 dans une école primaire? C'était ça. Et donc, moi, aujourd'hui, cinéaste, je me suis dit, voilà, faisons, par le biais du cinéma, un procès qui est improbable. Parce que rien n'est prévu pour qu'un pays fasse un procès contre une institution. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on ne peut même pas, pas forcément avoir raison, mais on ne peut même pas intenter un procès de la Banque mondiale ou du FMI qui a imposé un système de développement et qui a échoué et qui a appauvri les gens. Donc, comme ce procès est improbable, l'art peut l'inventer et c'est comme ça que bon, j'ai décidé de le faire avec aussi des gens, c'est-à-dire Arte, qui est dans cette ouverture. Voilà. Je suis venu juste, j'ai pitché, j'ai dit, je veux faire un procès contre la Banque mondiale dans la cour de mon père. Ça. C'était ça mon dispositif. Voilà. Et aussi, pour tout simplement quitter le côté intellectuel pour donner la parole aux gens, à ceux qui souffrent véritablement. Parce que nous, à l'époque, on était à Paris, voilà, bien confortable. Donc, c'était important de donner la parole à ceux qui sont déflattés, les chômeurs, et ceux qui les sans-voix, en quelque sorte.
Expliquer le mot déflatté, c'était vocabulaire de là-bas.
Ouais. Ou les conjoncturés.
Ou les conjoncturés, c'est les victimes d'une politique voilà, qui appauvrit. Et c'est ça, comme tout à l'heure.
Et ce sont ces personnes à qui vous donnez la parole dès le début de votre film et aussi à la toute fin.
Et aussi à la toute fin.
Celles et ceux qui n'ont jamais le droit de parler, oui. Et ceux qu'on n'écoute jamais.
Et c'est cette Afrique-là qui doit changer les choses, en fait. Il ne faut pas demander à la France d'être plus honnête ou à l'Europe d'être plus honnête, de partager. Non, je pense qu'on a dépassé ça. C'est à l'Afrique de s'en sortir, comme tu disais, d'avoir une politique, qu'aujourd'hui encore, qu'on arrête de nous dire « Faites attention à la Chine, elle va vous bouffer ». Mais pourquoi cette leçon doit venir d'Europe encore?
Les relations entre la Chine et de nombreux pays africains sont plus que...
Oui,
prégnante et importante sur le plan économique, mais pas sur le plan culturel.
Mais pourquoi encore une fois cette leçon vient d'Europe en disant aux Africains faites attention à la Chine, mais laissez l'Afrique être bouffée par la Chine si c'est ça son destin.
Alors on
c'est
ne peut ça. Pas ne pas parler Abderrahmane Sissako. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas parler non plus de votre rôle de prophète et de devin quand vous avez fait Timbuktu, qui a été un énorme succès, très, très remarqué et très justifié. Parce que là encore, on ne peut pas ne pas évoquer le poids du terrorisme, de l'islamisme, de Boko Haram, de Daesh, qui frappe de plein fouet plusieurs pays africains. Et là aussi, vous aviez fait comme une sorte de conte cruel et noir, une sorte de pressentiment, mais vous nous aviez annoncé ce qui était en train d'advenir.
Mais c'est ça notre rôle. Hein. Le poète, c'est pareil. Hein. Et c'est important, nous sommes des passeurs, c'est notre devoir. Moi, ce qui m'intéresse et qui m'importe, c'est de parler du continent, de m'approprier ce continent dont on parle souvent et il parle très peu de lui-même, parce que même s'il parle, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Sinon, les gens s'expriment quotidiennement, que ce soit dans les chants ou dans les cris. Hein. Et donc, le rôle de l'artiste, c'est de prendre cette situation et de le ressortir et de se révolter contre la barbarie, d'où qu'elle vienne, qu'elle vienne d'Afrique aujourd'hui ou par le terrorisme ou d'ailleurs. Hein, c'est le rôle de l'art.
Alors, les derniers mots pour Soro Solo, parce qu'il nous faut quand même honorer la journée de la femme. Et puisque vous êtes un homme, vous êtes le mieux placé. Une note d'espoir, puisque vous revenez d'un pays où les femmes ont le pouvoir.
Le Burkina Faso, oui. Je sais que les hommes que nous sommes, quand on veut avoir bonne conscience en société, on dit, ouais, nos sociétés, le socle de nos sociétés, c'est la femme. Mais on n'est pas prêt à lâcher un strapontin pour la femme quand on est dans un bureau et elles n'ont pas forcément le même salaire à qualification égale et travail égal. Bref.
Chez nous
moi,
aussi,
Oui, mais c'est ça. Mais je parle, c'est global, c'est moi. mondialisé, ça c'est bien mondialisé. Et là, je viens du Burkina Faso où j'ai été impressionné, marqué par la force de l'organisation des femmes. Toutes ces problématiques dont nous parlons, la pauvreté, le dénuement, les dégâts collatéraux de la Banque mondiale, du FMI, de nos politiques, eh bien les femmes à Waiguya se prennent en main et s'organisent en association, en unité de production, de transformation des produits locaux, comme le savon traditionnel avec le beurre de karité, et qui fait beaucoup de bien, et comme le conditionnement de la pomme de terre, qui pousse très bien dans la région, et qu'elle transforme en semoule pour la conserver. Bref, et voilà, je voudrais pas être pessimiste, hein, c'est de dire juste, malgré tout ce qu'on a dit, mais cette Afrique-là qui est méconnue, heureusement, il y a des structures qui existent ici en France, justement comme le Printemps des Poètes, grâce à cette 19e édition du Printemps des Poètes qui fait connaître des poètes africains. Il y a des festivals comme Africa Jazz qui permettent de découvrir la littérature, le cinéma et le théâtre africain, y compris la musique. Donc on doit les applaudir.
Donc merci beaucoup Soro Solo, merci au parrain du Printemps des Poètes qui est dédié à l'Afrique, merci à Abderrahman Sissako qui est le président de ce Printemps des Poètes. Merci à Nimrod, grâce à ses romans, ses poèmes et ses essais, on comprend mieux l'intériorité d'une pensée. Et puis on va se quitter grâce à votre choix musical, Nimrod. Vous allez nous permettre de faire découvrir, et pour certains de réentendre une merveille. Expliquez-nous ce qu'est Maingo.
Pierre. Ah oui, c'est Pierre Akendeke, le grand musicien gabonais, qui prenant les cantates de Bach, fait jouer dessus les polyphonies pygmées, et on voit là quelque chose de sublime qu'on n'aurait pas soupçonné.
Merci à Thierry Dupin, merci à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, qui a été préparée comme chaque soir par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Théo Goma. Vous retrouverez toutes les informations sur le Printemps des Poètes, 19e édition consacrée aux Afriques avec un S, et c'est jusqu'au 19 mars sur notre site.